Europe 1, législative 2022, premier tour. Pierre de Villeneuve.
Et je suis ravi de vous accompagner en cette première heure pour poser les choses avec vous, avec nos correspondants et nos invités. Bonsoir Chloé Morin.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous, essayiste, politologue, auteur de « On a les politiques qu'on mérite » aux éditions Fayard. Bonsoir à Dorian Dreuil.
Bonsoir.
Expert associé à la Fondation Jean Jaurès, patron de l'ONG, à voter. Quelques rappels de base avant de commencer. Les législatives 2022, ce sont 6300 candidats pour 577 circonscriptions. La majorité absolue est fixée à 289 sièges. Sachant que les forces en présence sont différentes par rapport à 2017 et que 15 ministres sont en lice pour les élections avec une obligation de résultat. S'ils ne sont pas élus, ils ont pour consigne de démissionner. Je rappelle aussi que nous sommes sous les règles scrupuleuses de l'ARCOM. Et donc nous n'évoquerons aucune tendance avant 20h, c'est la règle. Et avant tout, parce qu'elle est aussi l'une des données phares de cette élection, l'abstention, elle est une nouvelle fois record. Nous rejoignons tout de suite Thibaut Hue au ministère de l'Intérieur. Bonsoir Thibaut.
Bonsoir Pierre.
Et vous nous confirmez ce chiffre que vous allez nous donner, tombé il y a une heure, chiffre
tout
record.
À fait. Voilà ce chiffre, hein, 39,42% de taux de participation, hein, c'est historiquement bas, c'est un record et c'est plus d'un point de moins qu'en 2017. Hein, ils étaient 40,7% à voter il y a 5 ans à cette heure-ci, à 17h. Pour faire une comparaison, à 17h, donc pour le premier tour de l'élection présidentielle, ce chiffre était bien plus haut, 65%, même si on sait, hein, bien sûr que les électeurs se déplacent traditionnellement plus pour élire le président. Alors d'abord, là où on a le plus voté, c'est dans le Lot, 52,3%, et dans les Pyrénées-Atlantiques, 50,4%, un duo de tête largement au-dessus de la moyenne nationale. Par contre, en queue de peloton, on trouve la Seine-Saint-Denis, sans surprise, un département qui vote d'habitude moins que les autres, 27,7% de participation. C'est trois points de moins de plus qu'il y a 5 ans pour le 93, qui est quand même seul en dessous de la barre des 30%, suivi de près par le Val-d'Oise, la Moselle et l'Essonne. Les Parisiens ont été encore peu nombreux aux urnes ce matin, mais à 17h, on constate la même affluence qu'en 2017, 36,5%, là encore sous la moyenne nationale. Et ce taux de participation, je le rappelle, 39,42%, va continuer d'augmenter jusqu'à la fermeture des bureaux de vote ce soir. Résultat définitif à 20h.
Merci Thibaut Hue en direct de la place Beauvau, le siège du ministère de l'Intérieur. Alors justement, vous parliez des Parisiens qui vont peut-être, comme dans les grandes villes, se déplacer encore jusqu'à 20h. Nous retrouvons Arthur Pereira. Bonsoir, vous vous trouvez dans un bureau de vote à Paris, dans le 15e arrondissement. Bonsoir Arthur.
Bonsoir Pierre, oui.
Avec moins de la moitié des électeurs qui se sont déplacés.
Oui, tout à fait. En 760 personnes sur 1669 inscrites sont venues voter. Des personnes seules, mais aussi beaucoup de familles défilent depuis que je suis arrivé. C'est le cas de Jean et Marine, tous deux accompagnés de leur enfant.
Montrer aux futures générations qu'il faut voter, qu'on a le droit de voter et qu'il ne faudrait pas qu'un jour on puisse nous enlever ce droit-là.
Pour l'avenir de mon fils. C'est surtout primordial et je loupe aucun scrutin qui neige, qu'il vente et si je suis pas là, je donne des procurations. C'est plus qu'important.
Fondamental aussi pour Guillaume et Véronique. En 40 ans, le couple n'a jamais manqué une élection.
Pas perdre l'occasion de faire valoir sa voix et son opinion, voilà, quelle que soit l'élection municipale, législative ou présidentielle.
Et pour vous, madame ?
Eh bien, écoutez, mes motivations sont les mêmes. J'attache une extrême importance à la démocratie et voter, c'est la démocratie.
Muni de ses béquilles multicolores, Huguette, 96 ans, a bravé la chaleur pour glisser son bulletin dans l'urne. Pour elle, c'est une manière d'ajouter son grain de sel.
Il faut bien dire son avis, sinon après, vous ne pouvez pas râler. Hein. Il y en a tellement qui râlent sans avoir donné leur avis avant.
Et ici, on attend les derniers retardataires jusqu'à 20h, heure de fermeture du bureau de vote.
Merci beaucoup Arthur Pereira dans un bureau de vote du 15e arrondissement où 45% des inscrits se sont déplacés. Elle en dit long de cette élection, cette abstention, Chloé Morin.
Oui, alors elle était largement anticipée. Il y a un certain nombre d'indicateurs qu'on avait depuis le début de cette campagne, qui d'ailleurs, dans le prolongement de la présidentielle, indiquaient que à peine un Français sur deux s'intéressait à la campagne. Et il est vrai que c'était déjà le cas d'ailleurs en 2017. Et à cette heure, je pense qu'on a le droit de dire que les différents instituts projettent entre 52,5% et 53%. D'abstention,
on verra,
ce qui serait, si ça se concrétise, un record. Et effectivement, on a eu le sentiment d'une campagne qui n'a pas vraiment eu lieu, ou en tout cas qui était difficilement lisible, sur fond pourtant d'élections extrêmement importantes notamment de préoccupations extrêmement fortes pour le pouvoir d'achat, puisque depuis la présidentielle, la préoccupation pour le pouvoir d'achat n'a cessé de progresser, alors qu'elle était déjà la première.
Même si ça a été une préoccupation quasi unique. On n'a presque plus du tout entendu parler de la sécurité. Alors, s'il y a eu les événements du Stade de France, parce que s'il n'y avait pas eu les événements du Stade de France, on n'aurait même plus évoqué ce sujet-là. C'est vraiment, ça a été un trend, j'allais dire, unique dans cette campagne législative.
Effectivement, et toutes les offres politiques, que ce soit le gouvernement ou les oppositions, se sont positionnées autour de cette question-là, qui a été presque la seule question qui a été débattue.
Dorian Dreuil, quand on a entendu les différentes personnes dans le reportage d'Arthur Pereira, j'avais ce mot qui m'est venu à l'esprit, c'est les irréductibles. On a l'impression qu'il y a encore quelques-uns qui se déplacent en disant voilà, faut arrêter de râler, faut se déplacer, donner son avis, mais on a l'impression que c'est beaucoup plus difficile qu'on ne le croit.
On commence à se compter, oui. C'est heureux que vous donniez la parole à des gens qui croient encore en la démocratie et qui vont voter. Pour rebondir sur ce que vous disiez peut-être en début d'émission, en fait, cette abstention, elle en dit long sur nos institutions. Je pense plus que sur cette élection en particulier. Il ne faut pas se tromper de lecture, à mon avis, de trouver des excuses conjoncturelles ou particulières à ce scrutin de « il a fait beau aujourd'hui, ça va être la fête des pères, la campagne n'a pas passionné ». En fait, on bat des records de scrutin en scrutin. Donc c'est bien la preuve qu'il y a une rupture qui est beaucoup plus profonde que juste le rapport à une élection.
Mais
qu'il y a une
rupture. Vous pensez qu'on trouve encore des excuses ? Non, on dit non, je ne suis pas allé voter parce que qu'est-ce que vous voulez que je fasse ?
Oui, parce qu'il y a cette rupture profonde avec les institutions et ce lien qui se délite entre le citoyen, les institutions et la manière dont il voit la politique, le politique et la manière dont il se représente aussi le pouvoir. Force est de constater qu'aujourd'hui, il y a un sentiment assez fort dans la société qui veut que l'Assemblée nationale n'est peut-être plus le lieu de pouvoir politique.
Ah, je sais de quoi vous allez me parler. Vous allez me parler de ce projet de créer un Conseil national, comme le disait le président, et là, il y a les députés qui disent « mais qu'est-ce que c'est que cette nouvelle Chambre ?» alors qu'en réalité, on a un système de démocratie représentative qui va complètement aller à la poubelle, puisque à quoi servent les députés ensuite ? Il y a un peu antinomique.
J'allais un peu y venir, mais je pense plutôt que il faut trouver l'architecture institutionnelle qui permette de faire cohabiter justement ces formes de démocratie plus délibérative, plus participative, avec notre architecture de démocratie représentative.
C'est-à-dire garder l'architecture actuelle.
Bien sûr, mais on peut
l'aménager.
On peut imaginer des mécanismes de consultation du grand public, des citoyens, des mécanismes de participation citoyenne qui reviendraient à formuler des propositions en associant les citoyens et qu'on remettrait à l'Assemblée nationale, qui garderait le dernier mot dans son organisation classique.
Chloé Morin, on est obligé de changer la Constitution pour ça ou pas ?
Non, d'ailleurs, on peut très bien compléter la démocratie représentative sans pour autant, et c'est là le risque en fait, affaiblir notamment le Parlement. Quand il y a eu la Convention citoyenne pour le climat, par exemple, elle avait été initiée d'une manière qui était un peu baroque et le président était allé jusqu'à dire que finalement il adopterait telles quelles les mesures qui auraient été décidées par les
on
citoyens.
Connaît la
donc,
suite.
Il faut rappeler que ces citoyens-là étaient tirés au sort. Ça, à mon avis, ça pose problème parce qu'effectivement, dès lors qu'on dit des citoyens tirés au sort seront plus légitimes que les élus de la nation, c'est envoyer un très mauvais signal aux gens qui, justement, se déplace encore pour élire des députés. Mais pour autant, on peut imaginer énormément de dispositifs qui viennent compléter, parce que 5 ans, c'est très long. Et on a bien vu durant le quinquennat précédent qu'au bout d'un moment, la cocotte minute finit par exploser. Et donc, on finit par avoir des phénomènes type gilets jaunes où les gens se disent il y en a marre, on ne nous écoute plus.
Sachant que les gilets jaunes sont intervenus un an après l'élection, c'était extrêmement rapide.
Bien sûr, bien sûr. Mais là, on est dans une configuration où, il ne faut pas se mentir, des phénomènes de ce type sont encore possibles. On voit bien que l'abstention est massive, que la colère est extrêmement forte,
l'inflation.
Que les oppositions sont finalement très structurées. On a eu 3 blocs qui sont issus du premier tour de l'élection présidentielle, dont 2 sont quand même très, très opposés au président de la République. Et donc, les ingrédients, finalement, de l'explosion sont encore là. Et donc, le sujet, c'est trouver les voies du dialogue. Pour revenir au dispositif annoncé par le président, je pense que ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose de revaloriser les corps intermédiaires, par exemple.
Donc pourquoi pas une chambre représentative d'un autre type, comme le propose le président réélu. Vous restez avec nous dans un instant, la suite de cette spéciale législative sur Europe 1, avec Chloé Morin, avec Dorian Dreuil, et puis nous allons partir dans les QG. À tout de suite.
Le premier tour des élections législatives, l'événement politique est sur Europe 1.
Pierre de Villeneuve.
Sur Europe 1, où la rédaction est mobilisée, nous faisons vivre ce premier tour des législatives jusqu'à minuit avec toutes nos équipes. Nous sommes en studio avec les politologues Dorian Dreuil et Chloé Morin. Nous allons maintenant aller dans les QG des formations politiques en lice. D'abord Renaissance, le parti présidentiel qui, rappelons-le, compose avec le Modem et Horizon. Bonsoir Jacques Serret.
Bonsoir.
Vous êtes sur place au QG de Renaissance, rue du Rocher à Paris. Que s'y passe-t-il alors qu'il est ?
Eh bien, c'est encore relativement calme ici. Quelques salariés du parti sont arrivés pour suivre cette soirée électorale, mais pas encore fur de cadre de Renaissance et des partis alliés à l'heure où je vous parle. D'ailleurs, ils ne devraient pas être très nombreux, me confie un conseiller, tant un certain nombre de responsables sont dispatchés entre les circonscriptions en région et les plateaux de radio et de télévision. Alors Elisabeth Borne, elle, est d'abord attendue au palais de l'Elysée. Le président va réunir sa garde rapprochée pour analyser, décortiquer les premiers résultats et définir la stratégie du second tour. C'est après avoir échangé avec Emmanuel Macron que la première ministre viendra ici, rue du Rocher, dans le 8e arrondissement, à deux pas de la gare Saint-Lazare, pour prononcer un discours annoncé entre 20h et 21h, normalement, aux côtés du patron du parti, Stanislas Guérini.
Merci Jacques Serret, en direct du QG de Renaissance. C'est pratique la gare Saint-Lazare, parce que quand on vient de Vire, je crois que ça arrive de... Enfin bon, elle a peut-être une voiture. Direction le 10e arrondissement de Paris, maintenant siège de la NUP. Bonsoir Arthur Delaborde.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
Que se passe-t-il ? Est-ce qu'on attend Jean-Luc Mélenchon par exemple ?
Eh oui, on attend Jean-Luc Mélenchon ici dans cette salle de la Fabrique. Il va passer la soirée avec des militants et un certain nombre de représentants de la NUP. L'alliance de gauche créée, vous le savez, pour ses législatives. On sait par exemple que Julien Bayou, le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, sera là. Tout comme Yann Brossa pour le Parti communiste. D'autres, comme le secrétaire national du Parti socialiste, Olivier Faure, devraient intervenir à distance. Jean-Luc Mélenchon prononcera son discours aux autour de 20h30. Lui qui était à Marseille ce matin pour voter dans la 4e circonscription où il avait été élu député il y a 5 ans. Mais cette fois, il n'est pas candidat à sa réélection. C'est l'un de ses proches, Manuel Bompard, qui se présente là-bas avec l'étiquette donc de la NUP. Manuel Bompard qui, lui, est resté à Marseille.
Merci mon cher Arthur Delaborde, et nous irons d'ailleurs tout à l'heure à Marseille et nous passerons en revue pour les considérations ARCOP justement des différents candidats face à Manuel Bompard. Le paradoxe Dorian Dreuil et Chloé Morin de cette élection, c'est que ni Emmanuel Macron ni Jean-Luc Mélenchon ne sont candidats et pourtant c'est l'affiche de cette élection.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon c'est une forme de coup de génie en termes de communication, de simplifier l'élection et d'en faire et de dire que l'enjeu de l'élection, c'est de l'élire Premier ministre, parce qu'en vérité...
Que l'enjeu de l'élection, c'est lui.
Hein, voilà, c'est ça. Oui. En vérité, c'est quand même le troisième homme de la présidentielle. Donc il parvient déjà à s'imposer dans un duel qui... voilà. Et ensuite, en termes d'offres, on voit bien que si on regarde les circonscriptions, souvent il y a beaucoup, il y a une offre pléthorique. Hein, je crois qu'il y a jusqu'à 22 candidats.
Ça arrive, oui.
Par circonscription, ce qui est énorme, ce qui rend les choses difficilement lisibles. Et là, ce qui s'est imposé par la force des choses et surtout la force de Jean-Luc Mélenchon en l'occurrence, c'est ce duel-là. Mmh. Et ce soir, c'est vrai que ce qu'on attend, c'est entre les deux. Celui qui va finalement tirer son épingle du jeu. Ça permet normalement un surcroît de mobilisation, mais pas tant que ça, vu les projections que l'on a.
Dorian Dreuil ?
Oui, curieuse élection et drôle de scrutin. On a l'impression d'avoir un peu sauté la présidentielle, ou en tout cas de l'avoir vite oublié, comme si on était dans une démocratie parlementaire où tout allait se jouer sur les résultats d'aujourd'hui et de dimanche prochain. Match qui a été entretenu d'ailleurs par les deux camps, hein, par des indiscrétions dans la presse. On a entendu l'estime qu'ils se portaient réciproque, l'admiration qu'ils pouvaient avoir l'un et l'autre, comme s'ils se jugeaient l'un à la hauteur de l'autre. Ça va être ce qui va être intéressant, je pense, dans l'enseignement des projections qu'on aura ce soir et des résultats de la semaine prochaine, c'est de voir jusqu'à quel point, finalement, à l'Assemblée nationale, on arrive à traduire politiquement la recomposition des idées qui a eu lieu lors de l'élection présidentielle. avec les trois blocs dont parlait Chloé. Trois blocs auxquels il faut ajouter un quatrième bloc, malheureusement, de ceux qui ne s'expriment pas, de ceux qui ne votent pas et qui deviennent majoritaires dans ce pays.
Oui. Et alors, quand vous dites la recomposition des idées, c'est-à-dire ça commence par où et ça se termine où?
Ça commence, je pense, par les trois grands blocs qu'on a observés lors de l'élection présidentielle, c'est-à-dire un bloc, le bloc qui s'autoproclame populaire, donc autour de Jean-Luc Mélenchon dans cette alliance de la gauche, le bloc plus central d'Emmanuel Macron et le bloc de droite, extrême droite.
C'est-à-dire que... Oui, c'est ça. Pardon, je suis extrêmement impoli, je ne vous laisse pas terminer. Mais c'est en gros, l'offre politique en 2022, c'est ça.
Elle se structure voilà. En tout cas autour de l'offre et même plutôt la demande, parce que ce sont les résultats de l'élection présidentielle qui structure, je trouve, le paysage politique de cette manière un peu tripartite, qui parachève d'ailleurs les premières tectoniques de plaques qu'on avait observées en 2017 et les premiers bouleversements idéologique, politique et intellectuelle qu'on a observé en 2017.
Et alors du coup, il y a une sorte d'inertie, on parlait de cette abstention, est-ce que c'est une inertie ou c'est une sorte de nostalgie électorale de gens qui n'ont plus leur repère et qui du coup n'ont pas envie de se tourner vers une nouvelle offre politique? C'est-à-dire qu'avant, il y avait une gauche et une droite, et puis maintenant, il y a une nouvelle offre, donc du coup, non, plutôt pas.
Il y a une part d'insatisfaction vis-à-vis de l'offre politique, clairement, de gens qui, au centre-gauche par exemple, ou au centre-droite, ne se retrouvent plus exactement dans les clivages qui se sont imposés. Néanmoins, les premiers facteurs de l'abstention, ça reste tout de même le sentiment que la politique ne change plus la vie, qui ne parvient plus.
Donc avant même le changement de clivage, d'accord.
Avant même le changement de clivage. Et puis l'idée que le personnel politique, finalement, est globalement au service de lui-même avant tout et pas des citoyens, voire corrompu, parce qu'il y a cette fracture-là entre les citoyens et les politiques qui très profondément structure les élections depuis un certain nombre d'années.
C'est le thème de votre livre d'ailleurs, on a les politiques qu'on mérite. Mais est-ce que c'est vraiment nouveau? Et je ne suis pas du tout en train de vous faire un affront, mais est-ce que c'est nouveau ou est-ce qu'en 1970, en 1950, il n'y avait pas aussi d'une certaine manière...
Si on regarde par exemple juste l'abstention...
On avait les politiques qu'on méritait.
Ah oui, clairement. Mais
d'ailleurs, il y a un chapitre où vous dites que ce n'était pas forcément mieux avant.
Non, c'était plus opaque par exemple.
C'est ça.
Et en termes de corruption, on a l'impression qu'aujourd'hui la corruption explose. En réalité, c'est aussi surtout qu'on a imposé des règles que désormais on fait respecter. Et donc, un certain nombre de politiques ont été rattrapés pour des affaires qui n'auraient pas été rattrapées avant. Et quand il suffit de parler à des politiques qui ont évolué dans les années 70, 80, 90, pour savoir qu'à l'époque, il y avait quand même beaucoup plus de problèmes de corruption, de financement occulte.
Il y avait
etc.
de l'argent liquide qui se baladait dans les ministères, ça vous le dites aussi.
C'est ça. Mais ça restait opaque. D'abord, il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc il n'y avait pas cette espèce
de dénonciation
et de capacité immédiat. Du citoyen à tout savoir instantanément. Et puis, il y avait aussi des pratiques qui étaient tolérées beaucoup plus qu'aujourd'hui.
Dorian Drey, sur cette politique nouvelle 4.5.0, j'allais dire.
Oui, et surtout, je pense, là où je suis assez d'accord avec Chloé, dans le fait que les gens ne se figurent plus l'Assemblée nationale comme un lieu de pouvoir ou
un lieu de décision.
Un lieu de décision et un lieu qui a la capacité de changer la vie. Là-dessus, moi, j'aime toujours citer Game of Thrones. Dans Game of Thrones, vous avez un des personnages qui dit souvent « Le pouvoir réside là où les hommes et les femmes se le figurent ». Aujourd'hui, on a quand même l'impression que les citoyens ne se figurent plus le pouvoir comme étant à l'Assemblée nationale. Et donc, une perte d'intérêt, je pense, pour ces élections de ce fait-là.
Le problème, c'est que c'est de la fiction, Game of Thrones. Et là, on est dans la réalité.
Ça dit souvent beaucoup, beaucoup de nous et de nos rapports au pouvoir.
Inspiré de faits réels. 18h21, vous restez avec nous dans un instant. La suite de cette spéciale législative sur Europe 1. Et nous continuons notre tour des quartiers généraux. À tout de suite.
Le premier tour des élections législatives. L'événement politique est sur Europe 1.
Pierre de Villeneuve. Avec l'ensemble des correspondants et journalistes d'Europe 1 spécialistes qui sont mobilisés pour cette soirée électorale que vous pouvez vivre sur Europe 1 jusqu'à minuit, 18h23. Nous sommes en studio avec les politologues Dorian Drey et Chloé Morin. Et faut-il le rappeler par rapport à ce que nous disions avant, mais c'est bien Marine Le Pen qui est arrivée en deuxième position à la présidentielle. La patronne historique du RN est à Hénin-Beaumont. Et vous la suivez, Lionel Gougelot?
Oui, effectivement, dans cette 11e circonscription où elle est candidate, circonscription qu'elle avait ravie à la gauche en 2017 avec 58% des suffrages, après un premier échec pour quelques voix seulement en 2012. Alors ici, au cœur de l'ex-bassin minier du Pas-de-Calais, Marine Le Pen a atteint 70% des voix au second tour de la présidentielle et dans certaines communes de la circonscription. Alors l'enjeu pour elle, c'est bien de confirmer son implantation dans ce fief face à sa principale adversaire, l'écologiste Marine Tondelier, qui elle concourt sous les couleurs de la NUPES. Alors au niveau national, on le sait, Marine Le Pen avait appelé à la mobilisation de ses électeurs, craignant une abstention qui serait préjudiciable à son parti. Et bien dans sa circonscription, il semble que l'appel ait été assez peu entendu, puisque à Hénin, 47% des électeurs s'étaient mobilisés seulement à 17h. C'est 1,5 point de moins qu'en 2017. Et selon les premières indications dont je dispose, bien ce devrait être la tendance pour l'ensemble de la circonscription. Alors c'est ici donc à Hénin-Beaumont, dans une toute petite salle de quartier, que l'ex-présidente du Rassemblement National va vivre la soirée électorale. Les bureaux de vote sont fermés, bien sûr, et le dépouillement a commencé. C'est donc en début de soirée que Marine Le Pen fera sa déclaration solennelle. Alors d'abord, pour commenter les résultats ici au niveau local et au niveau de circonscription, mais bien évidemment aussi pour commenter les résultats et la performance du Rassemblement National au niveau national.
Merci beaucoup Lionel Gougelot, et pour être parfaitement raccord avec nos amis de l'ARCOM, je cite les autres candidats: Léa Caron pour le Parti Animaliste, Marine Le Pen, on en a parlé pour le Rassemblement National. Pour Lutte Ouvrière, c'est Dominique Guay. Autre extrême gauche, Gauthier Weinmann. Maxime Legrand pour le Parti Radical de Gauche. Marine Tondelier pour la NUP. Lassen Raïs pour les Démocrates Musulmans Français. Anne-Sophie Tazarek pour l'Union des Démocrates et Indépendants, l'UDI. Et pour La République En Marche et pour Ensemble, Alexandrine Pintus. Merci Lionel Gougelot. Ah, la droite de la droite aussi, même si le RN s'en défend d'ailleurs de se faire appeler comme ça. Il y a le parti d'Éric Zemmour, Reconquête. Bonsoir Victor Chabert.
Bonsoir.
Et vous suivez Éric Zemmour à Cogolin, près de Saint-Tropez.
En effet, Éric Zemmour a voté par procuration. Il fait partie de ces candidats qui ne peuvent pas voter pour eux-mêmes, car il est candidat ici dans le Var, mais il est inscrit sur les listes électorales à Paris. Ce matin, Éric Zemmour a fait le tour des bureaux de vote ici dans la 4e circonscription du Var. Puis il a déjeuné avec son équipe et travaillé son discours qu'il prononcera ce soir à 20h40 avant de réagir sur l'antenne d'Europe 1 un peu plus tard dans la soirée. Alors là, je me trouve actuellement sur le lieu où va se dérouler sa soirée électorale. C'est un bar sur une petite place de Cogolin avec une fontaine. Une centaine de personnes sont attendues. Ce bar s'appelle Chez nous et il est situé rue Nationale. Ça ne s'invente pas. Ce n'est pas sans rappeler les slogans des meetings d'Éric Zemmour, on est chez nous, qui était scandé aussi au Front National. Mais son équipe dit que ce n'est qu'une coïncidence.
Bah tiens, merci beaucoup Victor Chabert. Et pour citer effectivement les candidats face à Éric Zemmour dans sa circonscription, Marie-Christine Hamel des Républicains, Sereine Mauborgne pour Ensemble, Sabrina Ribeiro-Texera pour le Parti Animaliste, Sabine Christophany pour la NUP, Pascal Morel pour Lutte Ouvrière, deux autres candidats divers, Valérie Terrazoni et Chantal Saru, et pour le RN, Philippe Lothiot. On a beaucoup parlé de vote contestataire à la présidentielle, c'est-à-dire qu'il y a eu ces électeurs qui ont voulu mettre un pavé dans la mare en disant voilà, ça suffit. Moins, je trouve, quand même, pour ces législatives, c'est plus diversifié. Est-ce que c'est parce que c'est les territoires et que chaque territoire a une histoire différente, qu'il y a plus cette continuité? Finalement, on a envie de se dire que l'inversion du calendrier ne sert pas forcément à grand-chose. Qu'est-ce que vous en pensez, Dorian Drey?
Oui, il y a ça. Il y a aussi le fait que ça a été une élection particulièrement longue, de quasiment 7 semaines, je crois, qui est beaucoup plus longue qu'habituellement.
On a eu du suspense aussi avec le gouvernement.
Il y a eu du suspense et puis ça s'est un peu essoufflé alors que le coup était parti très vite. Jean-Luc Mélenchon a fait démarrer cette campagne d'élection législative avant même que l'élection présidentielle ne se termine avec cette annonce dans l'entre-deux-tours. Et donc un sentiment que c'est parti très vite et que ça s'est essoufflé parce que l'annonce du gouvernement, parce que les premiers pas, premières polémiques autour des différents ministres. Puis un temps aussi de jeu des partis, de coalitions, d'alliances. Alors on attendait de savoir si la gauche allait réussir à s'unir, puis qui allait partir sous la bannière de la majorité présidentielle, est-ce que le RN et Reconquête allaient partir commun. Donc un jeu d'appareil, et finalement derrière une campagne qui a du mal à redémarrer, à reprendre, et qui en fait n'intéresse pas du tout. Je pense que c'est même... ça traduit tout ça traduit finalement pas en fait, une méfiance ou une défiance, mais un désintérêt
sans
total.
Sans le vouloir, on nous a embrouillé, quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu un espèce d'embrouillage qui s'est fait de lui-même et les électeurs ont été perdus. Vous êtes d'accord avec ça, Clémorin?
Oui, il y a un élément structurel qui est la nature du scrutin, qui n'avantage pas en fait les partis contestataires, puisque on citait le Rassemblement national. On sait bien que le Rassemblement national a fait des scores quand même tout à fait importants à la présidentielle en 2017 et n'a obtenu que 7 ou 8 députés. Donc ça fait un décalage entre la représentation telle qu'elle émerge au premier tour de la présidentielle puis à l'Assemblée nationale qui est extrêmement important. Donc ces partis-là ne sont pas avantagés, c'est notamment en raison même de la sociologie de leur électorat. Ils ont un électorat, et c'est vrai pour celui de Jean-Luc Mélenchon aussi, qui est plus abstentionniste. Et c'est sans doute aussi ce qu'on verra encore ce soir. C'est le nombre, en fait, l'ampleur de la perte de voix qu'il y a entre le premier tour de la présidentielle et puis le premier tour des législatives. Et puis, il y a un deuxième élément qui est conjoncturel. C'est tout de même que le gouvernement a plutôt poussé à ce qu'il y ait à neutraliser la campagne et à neutraliser les oppositions pendant la campagne en évitant de mettre des sujets clivants au cœur du débat, notamment par
donc
exemple.
C'était la stratégie de l'évitement.
Et oui, si vous voulez, quand le gouvernement est nommé à la veille de la période de réserve, c'est plutôt pour faire en sorte que les choses soient neutralisées, à mon avis.
Oui, mais alors pour en revenir à ma question initiale. Il y a dans les territoires des députés pour lesquels vous votez parce qu'ils font le job, pas forcément parce que vous êtes raccord avec la politique, la couleur politique, mais vous dites il est très efficace parce que pour telle chose il a fait ça, on a avancé, il a obtenu des subventions, la collectivité territoriale fonctionne très très bien. Donc il y a peut-être moins, bon, je sais pas, je parle sur votre contrôle à vous deux, mais il y a peut-être moins cette ligne, non pas éditorial comme on dit chez nous, mais cette ligne politique que dans la présidentielle où on vote vraiment pour des convictions et pour des lignes de conduite. Dorian Dreuil.
Oui, et on le voit beaucoup notamment dans la sociologie, la typologie des candidats qui ont été investis. La plupart sont déjà élus, j'ai plus le chiffre en tête, mais il n'y a pas un énorme renouvellement, un renouvellement aussi fort que 2017 où on allait chercher comme ça des gens qu'on appelle de la société civile où on prenait un peu le premier ou la première qui passe, on lui met une étiquette, on forme et puis on l'envoie sur la campagne. Là, il y a eu un sentiment de bon, il faut se resserrer autour de personnalités locales qui sont connues, qui arpentent les marchés depuis longtemps, qui sont déjà dans des
qui rassurent aussi.
Voilà,
qui sont on déjà est dans une époque où on a besoin d'être rassuré
Et qu'on connaît en fait, connaît pour redonner assez paradoxalement d'ailleurs aux candidats ou aux futurs députés de la chair un peu de la circonscription quoi. Ça sera notre député.
Il y a un indicateur qui sera intéressant à ce point de vue, c'est le score de LR. Puisque finalement, LR a une centaine de sortants. Et on verra au niveau de résistance par rapport au score catastrophique qu'ils ont fait au premier tour de la présidentielle. On verra si, selon le nombre de députés qu'ils arrivent à sauver, ça sera un bon indicateur de la capacité à garder un ancrage et à contrer les clivages dominants qui ne sont pas favorables à LR aujourd'hui.
Allez, vous restez avec nous dans un instant, la suite de cette spéciale législative, 18h32 sur Europe 1. Tous les correspondants sont mobilisés dans les QG, dans les différents endroits où on attend effectivement la suite de ces législatives. Et nous, on continue notre tour de France dans un petit instant. À tout de suite.
Le premier tour des élections législatives, l'événement politique est sur Europe 1.
Pierre de Villeneuve. Avec les politologues Chloé Morin et Dorian Dreuil en studio, il y a la politique, puis il y a les affaires dans la politique. Le cas, évidemment, du ministre Damien Abad. Damien Abad, candidat sortant dans la 5e circonscription de l'Ain, où son candidat également Julien Martinez pour Les Républicains, Philippe Tournier-Billon pour Reconquête, Grégory Fabrice pour Les Patriotes, Céline Ilmaz pour Les Divers, Florence Pisani pour La NUP, Stéphane Paris pour Le Mouvement de la Ruralité, Joël Nambotin pour Le Rassemblement National, Sylvie Creuset pour Lutte Ouvrière et le Parti Ouvrier Indépendant et Démocratique est représenté par Jean-Michel Boulet. On part retrouver Jean-Luc Bourgeon. Bonsoir Jean-Luc.
Bonsoir Pierre.
Damien Abad, très très populaire dans son fief depuis des années.
Oui, effectivement, ici je me trouve à Oyonnax où il a voté ce matin. Effectivement, il est populaire et il est tout simplement le député sortant ici dans cette 5e circonscription de l'Ain depuis 2012 et élu à chaque fois assez facilement. Et d'ailleurs, cette élection aurait dû être une formalité pour le tout nouveau ministre des Solidarités et du Handicap du gouvernement Borne. Sauf que les choses se sont compliquées dès sa nomination il y a un mois. Ce sont d'abord ses anciens amis des Républicains qui l'ont accusé de trahison. Comment peut-on passer de premier opposant à Emmanuel Macron en tant que président de groupe LR à l'Assemblée, à ministre du gouvernement Borne, lui ont-ils reproché. Et cela a été un des axes de campagne de celui qu'il a remplacé au pied levé comme candidat chez les Républicains, Julien Martinez. Et puis surtout, deuxième souci pour Damien Abad, l'affaire dont vous parliez tout à l'heure, ces accusations de viol émanant de deux femmes pour des faits remontant à 2010 et 2011, deux plaintes d'ailleurs classées sans suite, mais qui ont obligé Damien Abad à descendre dans l'arène pour les nier publiquement. Incontestablement, elles ont pollué sa campagne, qu'il a menée un peu en catimini, loin des caméras et des micros et au plus près des habitants, avec des réunions publiques dans les tout petites communes devant parfois 30, 40, 50 personnes. C'est cet ancrage local au plus près des gens et des territoires que le nouveau ministre a voulu mettre en avant, sachant que, comme les autres ministres, il connaît la règle. S'il n'est pas réélu ici, il ne pourra garder son portefeuille.
Merci Jean-Luc Bougeon. Je vous le disais tout à l'heure, 15 ministres actuels sont en lice, dont la première d'entre eux, ainsi le ministre délégué à l'Europe. Clément Beaune se retrouve à se représenter dans la 7e circonscription de Paris en remplacement du sortant Pacôme Rupin de La République En Marche. Également face à lui pour les Républicains, Aurélien Véron. Il y a Cindy Lee, Isabelle Lang pour un parti divers, Aurélia Petit pour Lutte Ouvrière, Philippe Mazuel pour les divers gauches, Louis Claudio pour les divers centres. Rodrigue Flahaut-Prévot, on disait qu'il y en avait 22 parfois par circo. Là, il y en avait presque un. Parti radical de gauche. Constance Delétin pour Reconquête. Gaspard Chamorrois pour les écolos. Thomas Moulin pour le parti animaliste. Pour la NUP, c'est Caroline Mécari. Pour encore un parti divers, Naïma Moguir. Et pour le RN, c'est Anne-Hélène Daguenel. Bonsoir Aurélien Fleurot.
Bonsoir Pierre.
Après cette longue liste, je peux vous dire que vous suivez le ministre dans cette circonscription.
Effectivement, circonscription de Paris qui englobe le 4e arrondissement et une partie des 11e et 12e, circonscription historiquement socialiste, je me trouve à la place Léon Blum, circonscription historiquement socialiste qui avait été remportée par La République En Marche en 2017. Alors c'est a priori logiquement vers un duel Renaissance-NUP que l'on se dirige ici. L'Alliance des Gauches sera représentée par l'avocate Caroline Mécari. C'est la première fois que Clément Beaune se frotte à une élection. D'abord conseiller spécial à l'Élysée, il entre au gouvernement en juillet 2020. Le désormais ministre délégué en charge de l'Europe du gouvernement Borne va réunir ses soutiens dans un bar du 11e arrondissement de Paris en début de soirée. Il va s'exprimer vers 22h, le temps d'avoir des résultats consolidés, puisqu'ici, les bureaux de vote ferment évidemment à 20h à Paris, où la participation à 17h était inférieure de 3 points par rapport à la moyenne nationale.
Merci Aurélien Fleurot, en direct de la 7e circonscription de Paris, donc 11e, 12e arrondissement. Dorian André et Chloé Morin, cette obligation de résultat, j'allais dire, pour les ministres, de ne pas finir décapités, enfin, en tout cas de ne pas retrouver leur portefeuille, c'est normal, c'est historique, ça a été fait par le passé
Oui, c'est plutôt normal. Après, ce qui est étonnant, c'est qu'évidemment, tous les ministres ne sont pas obligés de se présenter, puisqu'on aurait pu se dire finalement qu'il est normal d'aller chercher l'onction du suffrage populaire, mais qu'il y a certains ministres qui ne sont pas candidats, donc c'est forcément plus facile pour eux. Et puis, tous ne sont pas égaux face à leur circonscription, puisqu'on a vu quand même dans les études qui ont été faites tout au long de la campagne qu'il y a certains ministres pour lesquels ça va être compliqué. C'est d'autant plus louable d'ailleurs de leur part d'aller faire du terrain et chercher l'onction du suffrage universel.
Dorian Dreuil.
Oui, je c'est la jurisprudence Sarkozy 2017 qui avait mis cette règle en place. J'ai toujours trouvé ça un peu curieux.
Pour quelle raison ?
On ne devient pas ministre parce qu'on est député et on n'est plus député quand on devient ministre. Donc il y a une sorte de curiosité où autant je comprends que le fait de ne pas recevoir l'onction du suffrage populaire fragilise sa place dans un gouvernement, autant ce côté un peu automatique où on met un coup près comme ça sur un candidat qui est par ailleurs ministre. Trouve un peu curieux. Et
mais ça s'additionne à l'incompréhension des gens qui sont déjà très incertains sur leur avenir en se disant ben voilà, non seulement il est ministre, mais en plus il faudrait qu'il soit député. Enfin, il y a l'onction du suffrage, et je vous entends, Chloé Morin, mais il y a aussi cette règle du non-cumul qui est là et qui
oui, c'est vrai qu'en gros, ils concourent à une élection dont ils savent, en connaissance de cause, qu'ils ne vont pas aller siéger ensuite à l'Assemblée nationale.
C'est ça, donc il y a un suppléant derrière qui fait le job.
Ça, c'est sûr.
Direction Marseille, où Jean-Luc Mélenchon n'est plus candidat, il l'a dit haut et fort, il laisse Manuel Bompard aller à sa place. Il se retrouve donc face à Solange Biagi pour les Républicains, à Elisabeth Vincenti pour les divers écologistes, Mathilde Jay pour l'animaliste, Sandrine Rasti pour Reconquête. Il y a un parti ouvrier indépendant démocratique représenté par Martine Dupuis. Il y a FEMU à Corsica par Léa Massinissacci, pardon pour la prononciation. Lutte ouvrière est représentée par Isabelle Bonnet, NUP, donc Manuel Bompard puisqu'on parle de lui, Miloud Boualem pour le Modem, Julien Tellier pour le RN, Kauter Ben Mohamed par un parti divers, l'Union des démocrates musulmans par Majid Ben Saïd, l'écologie au centre par Walid Tirera et Ensemble par Najat Akodak. Stéphane Burgat, vous êtes sur place à Marseille où effectivement Manuel Bompard prend d'une certaine manière la place de Jean-Luc Mélenchon.
Exactement, il l'avait annoncé assez récemment ici même dans ce QG de la NUPES qu'il ne se représenterait pas, laissant donc la place à ce lieutenant pour faire cette campagne qui est donnée assez favorable au parti, donc aux insoumis maintenant NUPES, hein, puisque c'est une circonscription où il avait été élu assez facilement, Jean-Luc Mélenchon, on s'en souvient, en 2017, même s'il y avait eu une abstention qui avait été particulièrement marquée dans cette quatrième circonscription, 57% d'abstention au premier tour. On va suivre cette abstention ce soir également. On a les chiffres pour Marseille. Une participation à minima 30% au pointage de 17h. C'est 3 points de moins comparé à 2017 sur l'ensemble de la ville. C'est 8 points de moins que ce qui se fait à l'échelle de la région. 38% enregistré donc à 17h avec pas mal de disparités d'un département à l'autre. On passe ainsi de 34% à peine de participation pour les Alpes-Maritimes pour monter jusqu'à 43% pour les Hautes-Alpes avec des chiffres en moyenne autour de 38%. Des baisses de moins 2, moins 3 points sur les départements de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Un électeur sur trois. Merci beaucoup Stéphane Burgat. Un électeur sur trois dans une grande ville comme Marseille. Ça en dit long quand même sur cette élection. Je reviens sur ce qu'on avait dit au début de l'émission, mais quand même, ça donne un petit coup de fouet. Chloé Morin.
Oui, et puis ça pose la question, si vous voulez, de compte tenu des enjeux. On a parlé du pouvoir d'achat tout à l'heure, mais on peut ajouter l'enjeu environnemental. Il y a évidemment tous les enjeux internationaux, géopolitiques. Il y a un certain nombre de réformes extrêmement clivantes qui sont sur la table aussi. Et donc, forcément, ça pose la question de la capacité demain à la classe politique dans son ensemble à gouverner. C'est-à-dire que on a bien vu, on parlait du phénomène des gilets jaunes tout à l'heure, à partir du moment où une part croissante des gens ne vont plus participer au choix, ils ne se sentent plus non plus solidaires du choix collectif. Et donc, à un moment donné, lorsqu'on décrète qu'on va faire telle ou telle réforme, ils sont tentés de descendre dans la rue de manière de plus en plus désordonnés, parce qu'en plus, ils sont aussi détachés des syndicats. Et donc, la question qui se pose de manière croissante dans ce pays, c'est quand même la capacité à gouverner.
Et donc, du coup, la proposition d'une forme de démocratie directe.
Oui,
avec Conseil national de la Fondation.
Une démocratie, disons.
En souhaitant que ça se passe autrement qu'avec le CESE et la consultation citoyenne, puisque effectivement, là où on avait dit qu'on allait prendre en considération toutes les proposition, finalement, on a choisi que deux, trois petites choses. Toi, André.
D'où l'importance d'institutionnaliser ce genre de processus et de procédés. C'est-à-dire que si vous organisez un événement comme ça, un peu en dehors de toute organisation institutionnelle, vous laissez forcément le sentiment aux gens que cet événement ou cet outil a été détourné de son objet initial. Ça a pu être le cas avec les cahiers citoyens du Grand Débat National, ça a pu être le cas avec les propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Il y a un besoin, je pense, de rendre ces mécanismes très institutionnels et de les les rendre presque logiques dans la pratique, ouais. et organisées. C'est le cas, par exemple, quand on parle de respiration démocratique, si on prend le cas de la Belgique, si on regarde un peu ce qui se passe autour de nous, il y a un système qui est très intéressant qui s'appelle les commissions délibératives. Alors, vous avez un Parlement, et dès qu'il y a un certain nombre de signatures, vous avez des citoyens qui demandent au Parlement d'organiser une délibération sur un sujet, il y a cette commission qui se met en place avec 15 députés tirés au sort, puis 45 citoyens tirés au sort, qui vont se réunir pendant plusieurs semaines et livrer des propositions directement à cette assemblée, qui va ensuite remouliner, amender, voter pour ou contre. C'est pas, on ne part pas du principe que ça va être forcément accepté, que la délibération, du coup, va conduire à une prise de décision, mais au moins c'est débattu. C'est débattu dans l'enceinte politique.
Il y a des commissions parlementaires, hein.
Oui, mais qui ne sont pas dans des logiques d'association, de participation.
Ça, c'est sûr. Il n'y a pas de citoyen qui sont
et dont le citoyen n'a pas la capacité de la déclencher.
On fait une nouvelle pause. On reparle de tout ça juste après un petit instant et on continue cette soirée spéciale législative sur Europe 1. À tout de suite.
Le premier tour des élections législatives, l'événement politique est sur Europe 1.
Pierre de Villeneuve.
Avec autour de la table Dorian Andreuil de la Fondation Jean Jaurès et Chloé Morin, qui est politologue et qui a écrit ce livre « On a les politiques qu'on mérite » chez Fayard. Je vous le conseille grandement. On file tout de suite dans le 15e arrondissement, dans un bureau de vote où on retrouve Arthur Pereira et vous êtes avec les derniers, j'allais dire, retardataires.
Oui, ils sont encore nombreux à arriver en fin de journée. Certains sont au pas de course, d'autres ont quelques marques de bronzage sur le front. Preuve qu'ils ont attendu le dernier moment pour voter. Clément, lui, n'avait pas le choix. En week-end dans le sud de la France, il est venu directement pour faire son devoir de citoyen.
J'ai même pas posé les affaires, je suis venu directement depuis la gare de Lyon, revoter par procuration pour quelqu'un et revenir ici pour voter.
Et puis à 1h maintenant de la fermeture du bureau de vote, 1h10 précisément, ils sont près de 49% à s'être rendus aux urnes ici dans ce lycée du 15e arrondissement de la capitale.
Merci Arthur Pereira pour ces dernières informations issues d'un bureau de vote du 15e arrondissement. Bon, il y a quand même quelques personnes, ça c'est toujours une espèce de petit effet comme ça en juste 1 heure avant la fermeture des bureaux de vote, non Dorian Andreuil?
Oui, après, ça ne sera pas de nature à inverser les tendances qu'on observe depuis le chiffre.
Merci de le préciser.
De 17h, même si pour les personnes qui nous écoutent et qui ne sont pas encore allées voter, ça peut être l'occasion, dans le dernier run, le dernier kilomètre, de se mobiliser. Ce qui d'ailleurs, moi, m'interroge un peu sur ce sujet, c'est qu'on risque. Alors, on va être sur un taux d'abstention record, mais on ne sera pas dans les plus grandes fourchettes que ce que nous annonçaient certaines projections. Donc on va avoir tendance demain à relativiser un peu le taux d'abstention en se disant, comme au lendemain de la présidentielle d'ailleurs, on n'est quand même pas au taux les pires, donc on ne s'en sort pas trop mal, et puis on va tranquillement passer à autre chose, alors que tout ceci est un signal assez fort du malaise qui existe dans notre démocratie et du nécessaire renouveau démocratique qu'il faut inventer, et le Big Bang institutionnel qu'il faut imaginer.
Chloé Morin, sur
oui, c'est
ce
vrai
Big
qu'on
Bang.
On a tendance à s'accoutumer assez facilement, et les politiques les premiers, au fait que l'abstention grandisse. En fait, ce qui a changé la donne, finalement, et j'en parlais à l'instant, c'est l'impact sur la capacité à gouverner. C'est-à-dire que jusqu'à il y a quelques années, finalement, l'Assemblée était de plus en plus mal élue, les présidents aussi, mais finalement, les réformes passées et à quelques manifestations près, ça allait. Dès lors que des mouvements populaires un peu irruptifs et incontrôlables sont possibles, et où un nombre croissant de citoyens ne se contentent plus de rester chez eux, mais peuvent aller très concrètement manifester leur mécontentement, ça pose un autre sujet. Parce que désormais, quand on passe une réforme controversée dans ce pays, et quel que soit le parti politique auquel on appartienne d'ailleurs, on a tendance à se dire, c'est quand même pas gagné, même lorsqu'on a la majorité, ce qui a été le cas d'Emmanuel Macron de manière très large.
Alors, Elisabeth Borne vient d'arriver il y a quelques minutes à l'Élysée. Donc, les choses commencent à se préparer pour cette soirée électorale qu'on va vivre sur Europe 1 tout au long de la soirée. On ne va pas jouer au Madame Irma autour de cette table, mais qu'est-ce qui se dit là entre la Première ministre et le Président de la République? Il y a une forme de réunion importante.
Oui, alors c'est la soirée des législatives, c'est compliqué. Pour le coup, moi, j'en ai vécu une quand j'étais à Matignon en 2012. C'est compliqué parce que vous n'avez pas les résultats tout de suite. Vous avez d'abord des estimations des rapports de force, mais ensuite, la traduction en siège, vous ne l'avez pas tout de suite dans la soirée. Ouais, c'est pour ça que j'étais assez étonnée quand ils ont annoncé tout à l'heure qu'elle allait parler à 20h30. Je ne sais pas ce qu'elle peut dire à 20h30, parce que je ne suis pas absolument sûre qu'on ait des projections en siège très fiables à ce moment-là. Et ça vaut pour tous les leaders politiques. Hein. Plus vous vous exprimez tôt, moins vous avez de choses à dire parce que les choses peuvent encore beaucoup bouger. Et typiquement, dans ce genre de soirée, les choses peuvent bouger considérablement en cours de soirée.
Oui, considérablement, vous voulez dire du tout au tout, hein, c'est ça ? C'est-à-dire que...
Oui, bah, c'est pas...
Il y en a deux en tête et puis finalement...
C'est comme dans une... Et qui plus est, si les résultats étaient serrés comme ils ont été annoncés par la plupart des instituts ces derniers jours, bah, il faudrait plus de temps dans la soirée pour décanter les choses, savoir qui est devant, comment les choses se... Voilà.
Dorian Dreuil, également.
Oui, c'est ce qui rend la soirée électorale, je trouve, assez passionnante, palpitante. et on sous-estime, je pense, l'importance de suspense, parfois, dans la vie politique. C'est ce qu'on peut reprocher, par exemple, à une Assemblée nationale où une majorité absolue fait tout sans aucun suspense. On connaît déjà la fin du film. Je pense qu'il y a aussi... Ça peut jouer sans doute à la marge, mais cette envie de voir que les choses peuvent être bouleversées, que les scénarios prédits peuvent être détournés et qu'il peut y avoir des surprises et que la vie politique peut être un peu comme la vie qu'on connaît dans tous les jours, c'est-à-dire pleine de surprises et de palpitations. Donc c'est l'intérêt de la soirée électorale de ce soir, de voir ce qui peut bouger à la marge ou pas, sachant que il y a un enjeu politique très fort sur cette élection. Mmh. C'est tout le paradoxe d'ailleurs. Il y a un nouveau record d'abstention alors qu'il y a peut-être un enjeu beaucoup plus fort en 2022 qu'en 2017.
Ouais. Et alors ça, moi, j'arrive toujours pas à comprendre. C'est-à-dire qu'il y a soit une lassitude, soit une inertie, soit une façon, et c'est un peu ce que vous disiez, Chloé Morin, c'est qu'on va régler ça dans la rue. C'est-à-dire que oui, il va y avoir... depuis quand on nous l'annonce ? Pour septembre, pour après les vacances, c'est ça qui est formidable aussi dans ce pays, mais ça doit être la même chose aussi dans d'autres. Arrêtons de cracher sur la France. C'est qu'on attend de passer les vacances, on souffle un peu parce que l'année a été dure, il y a eu le Covid, etc. Et puis, bah voilà, en septembre, rentrée difficile.
Oui, tout à fait. C'est la grande interrogation. Oui, c'est la grande interrogation que l'on a. Et on sent bien d'ailleurs que si le président de la République n'avait pas une majorité large, ça promettrait forcément des débats extrêmement marqués. Mais pour la démocratie, ce ne serait pas nécessairement, si on regarde la manière dont le quinquennat passé s'est écoulé, large majorité, ça ne voulait pas dire paix sociale plus grande. Donc peut-être que finalement, s'il y avait des majorités moins larges, voire davantage de nécessité de négocier à l'Assemblée, finalement, peut-être que les gens se diraient il y a des débats à l'Assemblée et donc il n'y a pas besoin de descendre dans la rue. Ouais. C'est aussi ça le pari de tous ceux qui veulent, par exemple, la proportionnelle.
Merci beaucoup à vous deux. Merci à l'ensemble des journalistes sur le terrain qui continuent à vous informer sur Europe 1 et sur CNews jusqu'à minuit. Merci à vous, Dorian Dreuil.
Merci.
Merci à vous, Chloé Morin. On a les politiques qu'on mérite aux éditions Fayard. Merci à l'équipe d'Europe Soir, Capucine Patouillet et Adrien Hélec. Vous avez maintenant rendez-vous sur Europe 1 et sur CNews en codiffusion. Et c'est Laurence Ferrari qui mène les débats. Très bonne soirée à tous.